Formation biblique de disciples, cours numéro 19, le royaume de Dieu. Première partie, le royaume de Dieu. Petit 1, la parole de Dieu divise le déroulement du plan de rédemption de Dieu en deux époques, cet âge présent et l'âge à venir. Ces deux époques sont séparées par le retour de Christ et la résurrection des morts. Le royaume de Dieu fait partie de l'âge à venir, et ne se réalisera dans sa plénitude que dans le futur. Or, nous savons que le passage de cet âge présent à l'âge à venir ne se produira pas du jour au lendemain. Il existe un chevauchement entre cet âge présent et l'âge à venir. À la fin de cet âge présent, il y aura la première résurrection destinée aux élus et le retour de Jésus qui inaugurera le millénium, c'est-à-dire le règne de Jésus sur terre. À la fin du millénium, il y aura le jugement dernier où ressusciteront tous ceux qui sont morts sans la foi en Christ. C'est la deuxième résurrection. Il n'y a donc pas une seule résurrection des morts, mais deux résurrections des morts séparées par le millénium. La défaite de Satan se passe aussi en deux étapes. Au début du millénium, il sera ligoté et jeté dans l'abîme. À la fin du millénium, il ne sera libéré que pour être jeté dans l'étang de feu. Ces deux périodes se chevauchent pendant ces 1000 ans. Pendant ce millénium, la terre jouira de la vie et des bénédictions du royaume de Dieu dans une nouvelle dimension. Comprenant que le règne de Dieu et son autorité s'exprimeront dans deux axes, l'un avant et l'autre après le millénium. La Bible révèle que les bénédictions de l'âge à venir ne sont pas exclusivement réservées au futur, mais nous pouvons déjà en faire l'expérience dès maintenant. Hébreux 6, verset 5 parle de ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du siècle à venir. Certes, l'âge à venir est toujours futur, mais nous pouvons goûter les puissances de cet âge. Par la foi en Jésus, la manifestation dans notre vie de la puissance de la croix peut se produire dans cet âge, même si elle se manifestera dans sa plénitude dans le futur. Cette délivrance vient de ce que la puissance de l'âge à venir nous a touchés et s'est projetée en la personne de Christ dans notre siècle mauvais, afin que nous puissions être libérés de ce présent siècle mauvais. Dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Petit 2. Comment peut-on vivre dans ce mauvais siècle sans s'y conformer? Nous devons faire l'expérience d'une transformation intérieure qui commence par la nouvelle naissance et se poursuit dans une marche par l'esprit au moyen de l'obéissance à la parole. Cette transformation intérieure est le résultat de la puissance de l'âge à venir, qui en fait commence déjà à affecter le siècle présent qui est mauvais. Bien que le siècle mauvais suive son cours, Dieu a rendu possible l'expérience d'une puissance nouvelle afin que nous puissions prouver la volonté de Dieu et révéler son royaume dans nos vies. Donc ce chevauchement des deux âges est fondamental pour comprendre ce que la Bible enseigne sur la rédemption. Il y a deux sortes de chevauchement des deux âges, et nous vivons donc entre les temps. En fait, nous sommes pris dans le conflit des âges, et ce sera aussi la même chose pendant le millénium. Or, nous savons que le royaume de Dieu concerne l'âge à venir. Pourtant, l'âge à venir, donc le royaume de Dieu, a débordé sur cet âge présent. Nous pouvons goûter à ses pouvoirs et ainsi être délivrés de cet âge présent qui est mauvais et ne plus conformer nos vies à ce monde de péché. Voir Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce pouvoir de transformation nouveau est celui de l'âge à venir. Et en vérité, c'est le pouvoir du royaume de Dieu. Petit 3, certes, Le royaume de Dieu est à venir, mais il n'est pas seulement à venir. Le royaume de Dieu signifie le règne de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, versets 22 à 26. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dans ce passage, Paul décrit les différentes étapes par lesquelles Dieu accomplira son plan de rédemption. Ce plan est lié au royaume de Dieu. L'objectif suprême est d'accomplir le royaume de Dieu, c'est-à-dire de réaliser le règne parfait de Dieu sur tout l'univers, et cela s'accomplira grâce à la défaite complète de ses ennemis. Le Christ doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et quand ses ennemis seront enfin soumis, le Christ remettra le royaume de Dieu à son Père. Cependant, cette conquête du règne de Dieu ne se fait pas en une seule action. Paul parle de trois étapes dans le triomphe de la puissance divine. On peut revoir dans 1 Corinthiens 15, versets 22 à 26. Or, dans l'Apocalypse, Jean divise la résurrection en deux étapes, qu'il appelle la première et la seconde. Paul nous montre qu'il y a en fait trois étapes dans ce triomphe de la puissance divine. La résurrection a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ dont parle Paul en mentionnant les premiers fruits. Lors de son retour, ceux qui appartiennent à Christ ressusciteront. Il ne s'agit pas d'une résurrection générale, mais de la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ. Et troisièmement, la fin vient seulement après cela, c'est-à-dire quand le Christ donne le royaume au Père. C'est après cela que Paul attendait une résurrection du reste des morts, au verset 29 du même chapitre. Ce qui est identique à Apocalypse 20, verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres et d'après ce qui était écrit dans ces livres. Petit 4, la Bible nous précise que le dernier ennemi à être détruit est la mort. Or, la victoire sur la mort se fait en trois étapes et la première est déjà accomplie. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de la puissance royale de Dieu par Christ, s'est déjà manifesté dans l'histoire, depuis près de 2000 ans, par la résurrection de Christ. Le triomphe sur la mort a déjà commencé. Une question. La défaite de Satan et du péché ne concerne-t-elle que le futur? La réponse est non. Autrement dit, le royaume de Dieu a-t-il envahi le siècle présent qui est mauvais et qui est le domaine de Satan? Hébreux 2, verset 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ici, la réponse est oui. Nous avons trois étapes de la défaite de Satan. Première étape, la croix où il a été dépouillé au début du millénium. Deuxième, l'abîme où il sera enchaîné durant 1000 ans. Et la troisième, à la fin du millénium, la mer de feu où il est définitivement vaincu. Conclusion, de même que le royaume de Dieu se manifeste en trois étapes dans la victoire sur la mort, de même le royaume de Dieu se révèle aussi sa puissance en trois étapes dans la défaite de Satan. Ceci signifie donc que les évangiles présentent aussi l'idée que le mal peut être conquis dans cet âge. En Matthieu 4, versets 23 à 24, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Jésus prêchait le royaume de Dieu et manifestait toutes sortes de prodiges. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume, puis il démontrait la bonne nouvelle du royaume par des prodiges. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus est à l'œuvre au milieu de nous pour attaquer le royaume de Satan. Chasser les démons prouve que le royaume de Dieu est venu parmi les hommes et opère au milieu d'eux. Et cela prouve que Satan a connu sa première défaite à la croix où il a été dépouillé. Deuxième partie, le mystère du royaume de Dieu. Ce qui fut caché pendant des siècles. Petit temps, ce qui fut caché pendant des siècles. Dans la Bible, le mystère est quelque chose qui a été caché pendant des siècles, mais qui est maintenant révélé. C'est un plan divin que Dieu a établi de toute éternité, mais qu'il a caché aux hommes pendant très longtemps. Dans le déroulement de son plan de rédemption, Dieu révèle ce plan et le porte à la connaissance de tous les hommes par les écrits prophétiques. Les paraboles de Marc 4 et de Matthieu 13 présentent le mystère du royaume, une nouvelle vérité sur le royaume de Dieu qui n'était pas révélée dans l'Ancien Testament, mais qui est enfin découverte par le ministère terrestre de Jésus. Quel est ce mystère? Dans le contexte du chapitre de Matthieu 11, Jean-Baptiste, qui était en prison, a envoyé des messagers demander à Jésus s'il était vraiment celui qui doit venir ou s'il fallait en chercher un autre. Or, le problème de Jean venait de ce que Jésus n'agissait pas comme le Messie que Jean avait annoncé. Car Jean avait la perspective de Daniel 2, verset 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'était aussi la problématique des disciples de Jésus. Dans l'Ancien Testament, la venue du royaume de Dieu est envisagée comme un événement unique et grandiose. Une puissante manifestation du pouvoir de Dieu qui balayera les royaumes pervertis de la souveraineté des hommes et remplira la terre de justice. Pour Jean-Baptiste, qui avait annoncé la venue du royaume de Dieu, dans Matthieu 3, verset 2, il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Cela signifiait que le Messie apporterait un double baptême. Certains seraient immergés dans l'Esprit Saint et feraient l'expérience du salut messianique du royaume de Dieu, tandis que d'autres seraient immergés dans les flammes du jugement dernier. Dans Matthieu 3, verset 11, Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pour Jean, l'œuvre du Messie était de passer les hommes au crible et de les trier, tout comme le fermier qui bat et vanne sa récolte, garde le bon grain et rejette la balle. Ainsi le Messie nettoiera son aire de battage, rassemblant le bon grain dans sa grange, donc le salut pour les justes, mais enverra les méchants aux flammes du jugement. Dans le verset 12, il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Or Jésus répondit qu'il était vraiment celui qui apporte le royaume et que les signes de l'ère messianique de la prophétie se manifestaient avec lui. Mais il ajouta, Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On le voit dans Matthieu 11, verset 6. Jésus voulait dire par là, oui, le royaume de Dieu est là, mais il y a un mystère, une nouvelle révélation au sujet du royaume. Le royaume de Dieu est là, mais au lieu de détruire la souveraineté des hommes, le royaume de Dieu s'est attaqué à la souveraineté de Satan. Le royaume de Dieu est là. Mais au lieu d'apporter des changements dans l'ordre extérieur et politique, Il apporte des changements dans l'ordre spirituel et dans la vie des hommes et des femmes. Petit 2, le mystère du royaume de Dieu. Là est le mystère du royaume. La vérité que Dieu révèle maintenant pour la première fois dans l'histoire du salut. Le royaume de Dieu doit faire son travail parmi les hommes en deux étapes ou de deux manières différentes. Le monde n'a pas encore vu la venue du royaume de Dieu dans sa puissance, mais le mystère, la nouvelle révélation, est que ce même royaume de Dieu est maintenant venu œuvrer parmi les hommes d'une manière totalement inattendue. Pour le moment, il ne détruit pas l'autorité humaine. Il ne supprime pas le péché sur la terre. Il n'apporte pas le jugement que Jean avait annoncé. Il est venu sans bruit, discrètement, secrètement. Il peut travailler parmi les hommes sans jamais être reconnu par les foules. C'est d'ailleurs le rôle essentiel de l'Église, faire grandir le royaume de Dieu sur la terre et le manifester par des signes. Le royaume dans sa plénitude est encore à venir, sous la forme prophétisée par Daniel, où la souveraineté divine remplacera la souveraineté humaine. Dans le domaine spirituel, le royaume offre maintenant aux hommes les bénédictions du règne de Dieu en les délivrant du pouvoir de Satan et du péché. Le royaume de Dieu est une offre, un cadeau qu'on peut accepter ou refuser. Le royaume est actuellement présent, plutôt dans sa persuasion que dans sa puissance. Cependant, il est en train de croître de plus en plus vite et se manifeste de plus en plus puissamment depuis qu'il nous a été apporté par Jésus, voilà près de 2000 ans. Il ne cesse de grandir et nul ne peut le retenir. Chacune des paroles de Matthieu 13 illustre le mystère du royaume qui doit encore venir dans la puissance et la gloire. Il y a mystère du royaume, car si le royaume entrera dans sa plénitude dans le futur, il est déjà présent parmi les hommes. Il prend une forme inattendue afin d'apporter les bénédictions de l'âge à venir aux hommes du présent âge, un âge qui est mauvais. Petit 3, le mystère du royaume de Dieu dans les paraboles de Matthieu 13. Dans la parabole du semeur, le mystère du royaume de Dieu consiste en ceci. Le royaume de Dieu est là, mais pas de façon puissante et spectaculaire. Il ne détruit pas les idoles, il n'enraye pas la corruption. Au contraire, il ressemble à un semeur. Il ne s'impose pas aux hommes. Certains comme la bonne terre le reçoivent, mais beaucoup d'autres ne le reçoivent pas. Certains entendent la parole du royaume, mais elle ne pénètre jamais dans leur cœur. Ils entendent l'évangile du royaume, mais ils ne comprennent pas la vérité qu'ils entendent. Satan vient et s'empare de la graine. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas de vie. D'autres sont superficiels. Leur affectivité ou leur intelligence peut être touchée, mais c'est peu profond et ils n'ont pas de volonté. La vraie vie n'y est pas. Il y a ceux qui découvrent que recevoir l'évangile ne les délivre ni du mal ni de la persécution. Eux se fanent et meurent parce qu'il n'y a pas de vie. Ceux qui sont pleins d'épines ne sont pas prêts non plus à accepter le royaume de Dieu dans son humilité. Mais si tous ceux-là ont paru accueillir et recevoir le royaume, même si tous ceux-là ont paru accueillir et recevoir le royaume de Dieu dans leur vie. Les soucis du siècle, l'amour de l'argent, les ambitions, le désir de paraître, les conventions de cet âge étouffent la parole qui devient stérile. Tous n'accueilleront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu parmi les hommes, et pourtant les hommes peuvent le rejeter. Mais quand le royaume de Dieu viendra, il viendra avec puissance. Qui pourra lui résister? Mais là est justement le mystère du royaume de Dieu. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, Jésus a voulu enseigner à ses disciples que le royaume de Dieu est venu et qu'il est là, au travail, au milieu de nous. Et pourtant, les méchants continuent de vivre au milieu de nous. Le royaume est venu, mais les méchants et les justes doivent vivre ensemble dans une société mélangée jusqu'à la venue du Fils de l'homme. C'est alors qu'adviendra la séparation finale, le temps de la moisson. Pour l'entourage de Jésus qui ne connaissait que l'Ancien Testament, cette nouvelle était stupéfiante et Jésus leur dévoilait ainsi le mystère du caractère imprévu de la venue du royaume de Dieu parmi les hommes. D'autres paraboles encore expliquent le mystère de la venue du royaume de Dieu. Dans la parabole du levain, Jésus explique l'aspect caché de la venue du royaume de Dieu. Mais un jour, la terre entière sera remplie du royaume de Dieu. C'est le levain qui aura levé toute la pâte et rempli tout le bol. Le levain ne symbolise pas le mal, mais une petite chose insignifiante que le monde peut mépriser et ignorer. Cependant, ne soyez pas consternés, il viendra un jour où le royaume de Dieu remplira toute la terre. Nous avons la même idée dans la parabole du grain de sénevé, qui devient un arbre immense qui couvre toute la terre. Il ne s'agit pas de l'Église, mais de la manifestation puissante du royaume de Dieu sur toute la terre. Dans la parabole de l'homme qui achète le champ et celle du marchand qui vend tout pour cette perle de grand prix, Jésus montre que le royaume de Dieu peut même coûter à quelqu'un tous ses biens terrestres, l'affection de ses amis ou même sa vie. Mais quoi qu'il en coûte, le royaume de Dieu est comme un trésor ou une perle précieuse dont la possession vaut tous les prix. Dans la parabole du filet, Jésus réaffirme cette vérité que bien que le royaume de Dieu soit venu chez les hommes de manière inattendue, le royaume de Dieu aboutira malgré tout à un jugement qui séparera les bons d'avec les méchants. Troisième partie, la vie du royaume. Petit 1, la vie éternelle, promesse pour le futur et cependant donnée dans le présent. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, versets 3 à 5. Ces versets associent le royaume de Dieu à la vie éternelle. Ils indiquent qu'il faut entrer dans la vie afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. La parole de Dieu nous offre la vie du royaume qui est supérieure à la vie physique. En fait, vie éternelle et royaume de Dieu sont inséparables. La vie que le Christ est venu nous apporter est en fait la vie du royaume de Dieu. Dans Matthieu 25, dans la parabole des brebis et des boucs, ainsi que dans Matthieu 19, dans l'histoire du jeune homme riche, Jésus montre clairement que la vie éternelle, le royaume de Dieu et le salut appartiennent tous à l'avenir et sont tous réservés aux disciples de Jésus. La vie éternelle appartient bien au futur. Paul le dit clairement dans 2 Corinthiens 5, versets 1 et 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre demeure céleste. Si la vie est pour l'avenir, ce qui est mortel sera dans le futur englouti par ce qui est immortel. Cependant, Jésus est aussi venu pour nous donner la vie dès à présent, et pas seulement à la fin des temps. Nous pouvons aussi lire dans Jean 10, verset 10, Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette vérité est répétée dans Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et dans Jean 5, verset 24, Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Petit 2, qu'est-ce que la vie éternelle? Le premier sens de la vie éternelle, c'est la connaissance directe et intime de Dieu, c'est-à-dire que nous avons déjà été amenés à une relation personnelle avec Dieu, que nous avons déjà été présentés à Dieu. Nous avons déjà commencé à partager sa vie. Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si la promesse où tous le connaîtront reste pour l'avenir, cette communion sera achevée quand les hommes connaîtront Dieu personnellement, profondément et parfaitement, car il gravera ses paroles dans nos cœurs. Selon Jérémie 31, verset 31 à 33. Mais les bénédictions de l'âge à venir ont été mises à la portée des hommes dès à présent, et désormais la connaissance de Dieu n'a rien d'une promesse. Dans Jean 17, verset 3, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cependant, comme le dit l'Écriture, notre connaissance dès maintenant est partielle, incomplète, mais cela ne l'empêche pas d'être réel. C'est pour cette raison que Paul insiste dans 1 Corinthiens 13 que nous devons exercer ce don de l'amour. Le deuxième sens de la vie éternelle, c'est que la vie de l'Esprit de Dieu habite en nous. Dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Un corps spirituel est donc un corps réel, mais qui est parfaitement et totalement stimulé et animé et qui reçoit son pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Or, ce que nous possédons du Saint-Esprit, ce sont des arts. Il s'agit de la possession actuelle, bien que partielle, qui garantit la pleine propriété en temps voulu. Cela signifie que nous avons déjà en nous la vie du ciel et que nous participons déjà à la vie du royaume futur de Dieu, pas encore dans sa plénitude, mais d'une façon réelle. Avez-vous saisi que la vie même du ciel habite en vous dès maintenant? En fait, depuis notre conversion, le futur a déjà commencé. Avoir la vie éternelle, c'est être sauvé. Cela veut dire vivre chaque jour du présent âge mauvais avec la vie du ciel. Quatrième partie, la justice du royaume. Petit 1 dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Le Seigneur nous décrit la justice du royaume et les conditions à remplir pour entrer dans le royaume de Dieu. Cependant, la justice du royaume de Dieu nous est donnée que lorsque Dieu vient régner dans nos vies. Cette justice est mise en opposition avec celle des pharisiens et des scribes, car elle est bien supérieure à la leur. Pour ces spécialistes de la loi mosaïque, l'obéissance à la volonté de Dieu se définit en termes de loi, et toute la question était de savoir quand on obéit à la loi et quand on la transgresse. Cependant, Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 20. Le royaume des cieux est la forme grecque de royaume de Dieu, qui en est la forme hébraïque. Petit 2. Quelle est donc cette justice supérieure du royaume? La justice que le royaume de Dieu exige ne s'intéresse pas seulement aux actes extérieurs de péché, comme le croyaient les pharisiens et les scribes. Elle va plus loin que l'action, plus loin que le fait, elle va jusqu'au cœur, elle s'intéresse à l'authenticité de mon être devant Dieu. Le royaume de Dieu ne s'arrête pas à l'apparence, il sonde nos pensées et nos rêveries, les intentions de l'esprit et du cœur, et va jusqu'aux sources de notre être. La justice du royaume dit que ce que tu es est plus important que ce que tu fais. Elle exige qu'il n'y ait aucun mal dans mon cœur envers mon prochain. La justice de Dieu se manifeste par une justice de cœur qui est motivée par l'amour envers celui qui a causé du tort et qui est libre du désir de toute revendication personnelle. On trouve la manifestation suprême de cette loi d'amour dans l'enseignement de Jésus sur le pardon. Il est évident qu'une telle justice du cœur ne peut être qu'un don de Dieu. La justice du royaume de Dieu est le résultat du règne de Dieu dans le cœur humain. Dieu doit régner dans nos vies dès maintenant si nous voulons entrer demain dans le royaume. La justice du sermon sur la montagne est la justice de l'homme qui laisse Dieu régner dans sa vie. C'est d'après ce critère que le disciple du Seigneur Jésus doit vivre. Il y arrivera dans la mesure où il aura fait l'expérience du règne souverain de Dieu. Il doit apprendre l'obéissance en passant par la mort à soi-même, afin que sa vie soit totalement dirigée par Dieu. Dans sa grâce, Dieu nous a envoyé son Fils pour nous rendre accessible au royaume, en offrant sa vie en sacrifice pour nous à la croix, et pour nous mettre fa en face des bénédictions et des exigences du royaume de Dieu. Matthieu 3, versets 2 et 4, verset 17. Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Accueillez-le. Nous pouvons opter pour ce royaume bien avant qu'il ne vienne dans la gloire et le jugement, parce que celui qui sera le juge suprême est venu parmi les hommes pour leur offrir la vie et la bénédiction de ce royaume dès maintenant. La justice du royaume est en fait une manifestation du royaume de Dieu. Si la plénitude de la vie éternelle appartient à l'avenir, elle peut cependant devenir une bénédiction présente. De même, la justice du royaume appartient à l'âge à venir, mais le Christ et le Saint-Esprit l'ont transmis dès à présent au Fils du royaume. Cinquième partie, le royaume, Israël et l'Église. Petit 1, la relation entre le royaume de Dieu et l'Église. Jésus a promis de donner à Pierre, comme représentant des apôtres et de l'Église, les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, verset 19, Je te donne les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés du futur royaume des cieux, c'est-à-dire le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes introduisant aux bénédictions de l'âge à venir, sont confiées aux apôtres de l'Église. Cela signifie que le royaume de Dieu n'est plus à l'œuvre dans le monde à travers Israël, mais il opère par l'intermédiaire de l'Église. Cette interprétation est confirmée par une parole de Jésus dans Luc 11, verset 52, où Jésus condamne les scribes parce qu'ils avaient enlevé la clé de la science au peuple. La clé de la science qui ouvrait la porte du royaume de Dieu avait été confiée aux chefs religieux du peuple juif. Cette clé était la compréhension et l'interprétation correcte de l'Ancien Testament qui aurait dû conduire les Juifs à reconnaître en la personne de Jésus leur Messie. La parabole des mauvais intendants de Matthieu 21, versets 33 à 42 le confirme aussi. À cause du royaume de Dieu dans sa nouvelle manifestation, Jésus n'apparaît pas comme le roi de gloire venant régner sur Israël, mais comme un simple serviteur doux et humble de cœur. Les fils du royaume ne l'ont pas reconnu et l'ont rejeté. C'est pourquoi le royaume de Dieu fut retiré à Israël pour être donné à un nouveau peuple. Ce nouveau peuple est l'Église, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, selon 1 Pierre 2, verset 9. Et Paul précisera, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, dans Galates 3, verset 7. Dieu n'a pas affaire avec une nation selon la chair, mais avec une nation sainte, l'Église, sur la base d'une foi salvatrice personnelle en Jésus le Fils de Dieu. Si les clés du royaume sont données à l'Église, comment agit le royaume au travers d'elle? Le royaume de Dieu, qui est en même temps le royaume de Christ, se manifeste d'abord dans l'œuvre rédemptrice de Christ qui touche et agit dans le nouveau croyant dès sa conversion. Ensuite, l'autorité divine se manifeste dans le domaine des bénédictions qui en découlent. Le royaume de Dieu est venu parmi les hommes pour vaincre Satan et délivrer les hommes de la domination du pouvoir satanique. Dans Matthieu 12, verset 28, Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu en tant qu'activité rédemptrice et manifestation du règne de Dieu en Christ a créé l'Église et travaille dans le monde à travers l'Église. Ainsi, le royaume de Dieu ne travaille pas parmi les hommes dans la seule personne de Jésus, mais aussi au travers de ses disciples. Cela se manifeste chaque fois qu'ils apportent la bonne nouvelle et que les signes du royaume se manifestent autour d'eux. Ainsi, le royaume de Dieu, au travers de l'activité rédemptrice, c'est-à-dire la conversion des âmes, et de la puissance de Dieu en action dans les miracles, travaille dans le monde à travers l'Église de Jésus-Christ. Le Christ a réellement donné à ses disciples les clés du royaume. Petit 2. Cependant, Dieu n'a pas abandonné son alliance avec Israël, selon Romains 11. Lorsque l'Église aura porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, à l'approche du retour de Jésus, le Seigneur rassemblera de toutes les nations les Juifs sur leur terre, les relèvera en tant que nation, les purifiera et amènera les chrétiens des nations à ne faire plus qu'un seul peuple avec Israël, tous unis en Christ. Dans Zacharie 2, versets 14 et 15, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. Ce sera alors le temps où le Seigneur reviendra sur terre avec tous ses élus pour régner 1000 ans. Bien que le royaume de Dieu n'atteigne pas le bonheur parfait avant le retour de Jésus, il opère dans le monde et il est engagé dans une lutte mortelle contre le mal. L'Église est l'instrument que Dieu utilise dans ce combat jusqu'à ce que l'adversaire de nos âmes soit vaincu. Continuons le combat contre les puissances des ténèbres jusqu'à ce que la lumière de la connaissance de Dieu remplisse la terre. Le royaume de Dieu grandit chaque jour et se manifeste sur la terre par les âmes qui se convertissent et par toutes sortes de manifestations de la gloire de Dieu, au moyen des signes, des miracles et des prodiges, jusqu'à devenir cette immense montagne qui va couvrir toute la terre. Unis aux anges et aux élus de tous les temps, proclamant à notre Dieu, à lui le règne, la puissance et la gloire. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? La Bible nous parle du royaume de Dieu maintenant, âge présent, et du royaume de Dieu à venir, âge à venir. Il y a une tension, un combat entre ces deux dimensions. Expliquez-la. Question numéro 2. Quel est le lien entre le royaume de Dieu et l'Église? Expliquez-vous avec des versets bibliques. Question numéro 3. Comment peut-on vivre dans notre génération sans nous conformer au monde? Donnez des versets bibliques. Question numéro 4. Dans l'âge présent, pourquoi le royaume de Dieu apporte des changements dans le domaine spirituel et non dans le domaine politique ou social? Dans l'âge à venir, qu'en sera-t-il des domaines gouvernementaux, politiques, économiques et sociaux des nations? Comment fonctionneront-ils?